Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h41 sur France Inter, l'instant M de retour dans vos oreilles.
Vous êtes en direct, allez-y.
Il est l'urgentiste le plus médiatique de France. Son nom et son visage sont associés à la canicule de 2003, mais aussi à ceux de ses amis, les joyeux dingues de Charlie, assassinés en 2015. Il avait passé 12 ans à leur côté. Après l'attentat, il n'a plus pu écrire sa chronique sur l'hôpital. L'envie de coucher des mots sur le papier est finalement revenue, mais pas celle de renouer avec son journal d'origine. Il choisit donc Ciné mensuel, libre et gueulard. Ciné, c'est quand même l'histoire d'une grande rupture avec Charlie Hebdo. Difficile à oublier,
l'instant
ou pas, M. On verra.
Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour Patrick Peloux.
Bonjour.
Alors, vous exercez docteur en
ouais.
ce moment.
Oui, oui, voilà.
Vous n'êtes pas de garde, vous n'êtes pas d'astreinte, on vous
ce
arrache
soir.
À l'hôpital. Vous
ce
exercez
soir.
Où
Au SAMU de Paris, à l'assistance publique hôpitaux de Paris.
Voilà.
J'en suis très fier.
Bah
et,
oui.
Et j'y, voilà,
voilà. Voilà. Donc, un petit tour en radio. Et ensuite, on file.
Abracadabra.
Ensuite, voilà. Allez, un petit mot d'actu des médias. Explicite, vous vous en souvenez, ils étaient venus l'annoncer dans l'instant M. Les grévistes d'ITélé, la chaîne info du groupe Canal+, devenue CNews. Nombreux sont ceux qui ont quitté la rédaction. Ils ont créé leur média, qui s'appelle donc Explicite, qui lance aujourd'hui un nouveau site d'info et une application mobile. L'idée, c'est de pouvoir approfondir ses connaissances sur chaque sujet d'actu, grâce à toutes sortes de contenus, photos, références historiques, définitions, archives. Ça commence donc aujourd'hui, c'est gratuit pendant un mois pour voir. Et ensuite, c'est sur abonnement. Mardi, l'Instant M recevait Nassira El Moadem, la boss du Bondy Blog. Une enquête m'avait particulièrement alertée, j'avais particulièrement retenu mon attention ces dernières semaines sur le Bondy Blog. Les habitants d'une tour de 9 étages à Villetaneuse, privés d'ascenseur pendant des semaines. Vous n'imaginez pas le quotidien de ces gens-là, invivables, 9 étages sans ascenseur. Et ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, l'ascenseur est réparé. Enfin, je vous parle d'une rédaction qui fait un super boulot. Médiacité, site consacré à l'investigation. C'est pointu, c'est très sérieux, ça sort de l'info et de l'info en région, avec la conviction que la presse nationale se désintéresse des enjeux régionaux et que localement, le paysage régional s'est trop appauvri pour enquêter. Médiacité vient de sortir un gros dossier intitulé « Les CHU leaks ». 26 000 fiches d'incidents enregistrées par le personnel du CHU de Toulouse, plongé dans un hôpital qui dysfonctionne gravement au point de mettre en danger des patients, à lire donc sur le site de Médiacité. Voilà, et Médiacité, je pense qu'on va vite les inviter parce que c'est vraiment un dossier extrêmement intéressant et c'est du super boulot comme je viens de vous le dire. Alors Patrick Peloux, vous faisiez partie, puisqu'on parle là, d'une
ouais.
envie de médias alternatifs, d'une envie d'une autre façon de faire du journalisme. Vous faisiez partie de nombreux signataires en septembre dernier pour un manifeste, justement, pour le nouveau journalisme.
Mmh.
Préambule à la création de Le Média par des compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon. Petit extrait de peut-être ce qui a provoqué finalement votre retrait. Claude Elcal, 23 février 2018, Le Média donc.
Déplorer les victimes dans un camp et taire les victimes de l'autre camp est d'un cynisme sans nom. Pourtant, malheureusement, c'est précisément ce que font l'écrasante majorité des médias occidentaux qui sont hostiles à Bachar al-Assad et l'écrasante majorité des médias arabes et russes qui lui sont favorables. C'est pour cette raison que nous avons choisi de ne pas vous montrer aucune des images qui circulent en boucle dans tous les médias.
Patrick Peloux, 11 d'entre vous ont signé un autre texte début mars. Je le cite, « Aujourd'hui, le média ne répond plus à nos yeux à la promesse initiale, ni sur le fond, ni sur la forme. Nous ne pouvons plus le soutenir. » Il y avait vous, il y avait Aurélie Philippetti, François Morel, Cécile Amar, qui est journaliste à l'Obs, Édouard Perrin, à Cache Investigation. Noël Mamère avait ouvert le bal.
Oui. Bah oui, ils avaient promis quelque chose d'indépendant et qui parlerait de tout. Et justement, par rapport aux médias alternatifs dont vous parliez, je pense qu'il y a une soif et il y a un appétit d'un vrai journalisme, pas simplement des chaînes d'information qui un peu des fois lavent un peu quand même plus propre le cerveau. Il y a besoin d'un vrai journalisme. Donc en fait, il y avait un espoir, et puis en fait, ça a été un petit peu déçu avec la mise à l'écart de la journaliste
Maud
Rossigneux. Mm-hmm. Ça a été un signal. Donc, mais c'est pas choquant qu'un parti politique élabore une stratégie de communication et son journal. Mais faut simplement le dire, quoi. Faut pas nous entraîner sur quelque chose.
Ah, donc vous vous êtes senti trompé en fait.
Un petit peu.
Trompé,
ouais,
sur
sûr,
la marchandise.
Bien sûr, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr,
très bien. Bien sûr. Alors ne pas avoir trouvé dans le média le nouveau journaliste que vous espériez, c'est une chose. Est-ce que vous épousez néanmoins les mots de Jean-Luc Mélenchon dans sa critique faite aux médias en général? Il l'a encore redit là à propos de la grève. Vous, les journalistes, qui faites un boulot de merde.
Non. Enfin, pas tous. C'est ça qui est... je crois... C'est un métier très difficile. Mm-hmm. C'est un métier très difficile parce que... On le voit notamment au niveau des hôpitaux. Faire du journalisme, ça demande beaucoup de temps. Or, il y a une espèce d'immédiateté de l'information qui est arrivée, notamment avec Twitter, avec les réseaux sociaux, etc. Il faut aller plus en plus vite. Donc, je pense qu'il y a une espèce de productivisme de l'information qui a été lancée dans les têtes des journalistes et qui est compliqué à mettre en place parce que justement il y a cette temporalité de l'investigation. Il faut du temps. Investiguer, rechercher.
Et vous le constatez, vous, sur les sujets de santé qui sont des sujets complexes, techniques.
Voilà, un journaliste qui veut faire une enquête sur un hôpital ou rentrer, par exemple, dans la problématique de la souffrance au travail, eh ben c'est très difficile parce que d'un coup il va se heurter à une barrière très forte de la part de l'hôpital pour pas faire l'enquête. Donc d'un coup, une enquête où il va falloir qu'il aille attendre le personnel à la sortie de l'hôpital pour poser des questions, etc., il va pas forcément avoir le temps. Donc je pense que c'est ça le problème. On est un pays où il y a la liberté d'information, il y a la liberté de la presse, il y a la liberté de penser. Donc ça, il faut vraiment, ça ne s'use que si on s'en sert pas. Donc il faut s'en servir et profiter des nouveaux outils d'information, comme là le nouveau média que vous citiez. Je pense que c'est ça qui est intéressant.
Je n'arrive plus à écrire ma chronique sur l'hôpital. Mon départ n'a rien d'une défiance envers l'équipe actuelle qui s'en sort plutôt bien. Expliquez-vous sereinement, 11 mois après l'attentat qui a frappé vos amis de Charlie Hebdo, vous avez donc quitté Charlie Hebdo. L'envie d'écrire est revenue. Pourquoi ne pas être revenu au journal, tout simplement, puisque l'envie d'écrire est revenue?
Parce que, d'abord, le Charlie, il faut qu'ils vivent. Je crois qu'ils ont beaucoup de courage de faire ce qu'ils font. Et puis, il y a une nouvelle équipe. Il y a un nouveau groupe, il y a une nouvelle équipe. Revenir, ça faisait un petit peu repartir en arrière. Et je ne sais pas s'ils l'auraient accepté, ce que je comprends. Catherine Siné m'a appelé sur les bons conseils de François Morel. Et j'ai été complètement enthousiaste dès le départ parce que c'est un Ciné Mensuel est un beau journal, les journaux d'ailleurs comme je les aime, très épais, très
oui le papier est épais, voilà, en effet le papier est très épais,
il y a plein de dessinateurs, je crois qu'il y a près de 29 dessinateurs ce mois-ci. Et ça me manquait, enfin c'est fou, mais ça me manquait, le côté rédaction, côté...
Alors, que Charlie, ce soit une page tournée avec la mort de vos amis, puis 12 ans de compagnonnage, etc.
Enfin, tournée, c'est pas, on peut pas dire ça, hein. Les souvenirs sont là. Hein.
Ah, je ne parle pas des souvenirs, je parle simplement d'écrire dans le journal et de publier. Oui, bien entendu, j'imagine que les souvenirs sont toujours là et qu'ils le seront toujours. Ciné est mort à 87 ans, il y a moins d'un an, voilà. Il avait été écarté, évidemment, du journal, on s'en souvient. En 2008 par Philippe Val, après avoir moqué une éventuelle conversion au judaïsme du fils de Nicolas Sarkozy épousant l'héritière d'Arty. Tout le monde se souvient de l'histoire puisqu'elle avait été médiatisée, Ciné avait été viré, il avait été poursuivi pour incitation à la haine raciale, relaxé ensuite par un tribunal. Ensuite, c'est le journal qui avait été condamné pour rupture abusive du contrat. Et puis, c'est de cette histoire finalement qu'est né Ciné Mensuel. Alors, on écoute Ciné à l'époque, il était interrogé sur France 3.
Heureux, le dessinateur et caricaturiste politique Ciné. Je dis un homme heureux parce que votre hebdo satirique que vous avez lancé il y a un peu plus d'un an maintenant, il marche du feu de Dieu.
Absolument.
C'est combien d'exemplaires aujourd'hui?
On en tire à 110 000, mais on en vend 50, 45-50, ça dépend des bonnes semaines ou pas.
Et par rapport à Charlie Hebdo que vous avez dû quitter il y a un peu plus d'un an maintenant, ça représente quoi?
Ouais, on les a enfoncés.
Ça vous fait plaisir?
Ben oui, bien sûr, ouais. C'est une vengeance.
C'est une vengeance. C'est quand même l'histoire d'une rupture fratricide, ouais. Patrick Peloux.
Bah oui, j'étais du côté de Charlie Hebdo.
À l'époque.
Mais il y a plus de côté. C'est de l'histoire. Je pense qu'il y a des historiens de la presse qu'il faut qu'ils se penchent sur tout ça. Mais ça fait partie de l'histoire. Il faut regarder devant maintenant. Il faut regarder devant. Et on a besoin d'une presse de caricature riche et plurielle.
Ah, ça oui.
Ça, absolument. C'est hyper important. Tu vois, il reste Charlie Hebdo, il reste Ciné Mensuel, il reste Le Canard Enchaîné. Il faut qu'il y en ait d'autres. Parce que justement, on a besoin de se marrer. Hein. Ce qui différencie votre visage de la mort, c'est le sourire et le rire. Il y a pas autre chose. Hein. Et puis, vous voyez le curseur de la démocratie et de la liberté justement par le rire. Hein. Vous avez aucune dictature où ça se marre. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Ni les intégrismes religieux d'ailleurs.
Donc vous aviez pas l'impression de rejoindre les frères Zemmour? Finalement, pour vous,
c'est l'histoire ancienne.
Est-ce que vous auriez rejoint Ciné Mensuel du vivant de Ciné, qui était fâché avec tous vos amis qui n'avaient jamais reparlé ni à Charme, ni à Cabu, ni à Volin?
Je l'ai pas fait, mais en même temps, il y avait une espèce de entre Ciné et Charbe. Bon, ils se parlaient plus, mais il y avait une attirance. Il y a une des dernières interviews qu'avait fait Ciné. Il avait été posé la question de savoir en qui il se reconnaissait pour l'avenir. Il avait répondu Charbe.
Oui, je l'ai vu cette interview.
Vous l'avez vu?
C'est
formidable. Mais moi, il me faisait marrer, Ciné. C'est le plus bel hommage qu'on m'ait fait.
Je crois que c'est dans cette interview qu'il dit, de toute façon, l'épouse de Charbe, c'est Patrick Peloux.
Oui, c'est ça.
C'est comme ça qu'il l'appelait, tellement il l'adorait, en tout bien, tout honneur, évidemment. C'est dans cette interview.
Ah oui, ça m'a fait pleurer, ça. D'ailleurs, ça, voilà. C'était ça.
Après l'attentat.
Mais ils avaient... Voilà, mais maintenant, il faut que faut travailler à détendre l'atmosphère.
Détendons l'atmosphère, écoutons Ciné chez Ardisson à propos des scores électoraux du Front National.
Je suis contre la démocratie qui laisse la parole aux sales cons.
Tu penses que le suffrage universel a des limites?
Ouais, bien sûr.
Mais qui fixe ces limites?
C'est les copains.
Pas mal.
Les copains, quoi.
N'importe quoi.
Voilà les copains.
Non, mais c'est on fête les je sais même pas si on les fête les 50 ans de mai 68, mais c'est tellement la pensée culturelle de mai 68 où tout était permis. Et puis voilà, quand il vous dit les copains, mais ça, tout est dit, quoi. Il y a une espèce d'esprit. On pense à Salengro, évidemment, de l'esprit grolandais, mais c'est l'esprit de caricature.
Christophe Salengro, voilà, qui jouait le président de Groland et qui vient juste de mourir.
C'est tout ça. Alors, ce qui est classe pour ces journaux de caricature, c'est de prendre des écrivains comme moi, des plumes qui font passer des problématiques et qui écrivent sur le quotidien que l'on vit.
Alors
tout
on va
et
en
tout.
Parler
c'est
justement.
Ça qui est
bien. Alors il y a toutes sortes de plumes qui ont rejoint Ciné Mensuel. Il y a donc François Morel, notre cher François Morel, qui écrit quasiment en ouverture du journal cette chronique qui lui vaudra bientôt un gros coup de carabine dans les fesses, à mon avis. Comment différencier un sanglier d'un chasseur? Il n'a peur de rien. Mais on y retrouve aussi les signatures de Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice, qu'on connaît bien ici, de Christophe Alévèque, de Patrick Rénal, de Guillaume.
Journal de France Inter.
Non, pas tout à fait. Mais j'aime beaucoup quand on n'arrête pas de nous dire que France Inter est devenue une radio macroniste. Bref, on en reparlera une autre fois.
Bah
oui, on nous dit ça aussi parfois.
Ah ouais.
Voilà. Mais aussi beaucoup de reportages. Il y a du contenu, il y a de l'enquête, il y a du reportage, il y a des interviews, il y a beaucoup de choses dans Ciné Mensuel.
Et
l'emprise
des
patrons sur la médecine du travail. Ouais. Ça, évidemment, deux pages. Voilà. Ouais. Sur les facs en fusion. Une très longue interview de l'historien Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen, sur l'histoire du dessin et de la représentation antisémite.
Il faut regarder ces dessins sur l'antisémitisme. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup. Et à l'époque où on vient avec Mireille Knoll, qui a été lâchement assassinée à Paris, on est tous mobilisés contre l'antisémitisme. Mmh. C'est très important, ça.
Alors vous dites, s'ajoutent aussi des plumes comme la vôtre qui viennent remettre du quotidien, du réel, de l'info, etc. Je vous fais écouter une archive, 10 mars 2018, c'est donc très très récent, CHU de Reims sur BFM TV, une dame est morte à l'hôpital.
Trois jours après, je me dis, quand je l'ai quitté ma mère à 16h30, je pensais jamais qu'elle allait mourir aux urgences, mais dans le hall, sur le brancard des ambulanciers. que je venais de quitter. Et qu'elle n'ait pas vu un médecin pendant tout ce laps de temps. C'est incompréhensible.
C'est ce genre d'histoire qui vous a fait reprendre la plume, Patrick Peloux ?
Oui, on est...
Puisque vous en racontez
aussi. Oui, voilà. Et il faut dire aux gens, il arrive un moment... Enfin, là, c'est le sentiment que j'ai. Il n'y a plus de politique pour le niveau au niveau de la santé. Ce n'est plus de la politique, c'est de la gestion par des experts. Or, j'exècre les experts sur la gestion de la santé, parce que pour moi, la santé sociale, c'est éminemment politique. Alors, je ne suis pas un homme politique, mais simplement, je vois la différence où d'un coup, quand vous avez une problématique telle qu'on l'a actuellement dans le grand système du monde hospitalier, où on va pas dans le mur, on est dans le mur, on est dans un drame. Et quand vous vous retournez vers eux, à chaque fois, ils vous disent, on va faire une enquête, on verra, et puis on reporte sans arrêt, de mois en mois, la problématique. Or là, on a vraiment un problème absolument aigu et majeur dans pas simplement les hôpitaux des CHU, des hôpitaux universitaires, mais dans tous les hôpitaux. Mm-hmm. Et c'est le système de soins qui est en train de basculer.
Alors, qui est en train de basculer en même temps, vous l'écrivez vous-même dans cette chronique, assez honnêtement, vous dites, voici 30 ans que je n'ai pas entendu parler d'autre chose que de restriction budgétaire et de fermeture à l'hôpital. En quoi cette chronique est une chronique d'aujourd'hui ou en quoi cette chronique est très paresseuse? C'est la même chronique qu'il y a 10 ans, même chronique qu'il y a 15 ans, même chronique qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 25 ans.
Je fais des copier-coller.
C'est vous qui êtes paresseux ou c'est le système qui ne fait, l'histoire qui ne fait que se répéter? Je vous pose sincèrement la question. Moi, je lis cette chronique et je me dis, mais c'est sa chronique d'il y a 20 ans.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pas la même parce qu'il y a une usure du système où au départ, il y a 30 ans, quand on commençait, quand les fermetures de lits, on a fermé plus de 100 000 lits au cours des 20 dernières années, c'est considérable. Vous imaginez, en 88, en 88-90, il y avait à peu près 8 millions de personnes qui passaient au niveau des services des urgences. On est à plus de 21 millions maintenant. Ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé de manière très lente. Et là, on est à la cassure d'un grand système. Où, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des signalements de tous azimuts, où il y a des gens qui sont morts sur des brancards au niveau des urgences. Il y a quelques années, il y a toujours eu des morts sur les brancards aux urgences. Mais il y avait un seuil de tolérance qui était un petit peu plus élevé. Et là, le seuil de tolérance s'est abaissé. Et donc, ça devient quelque chose. Et vive le journalisme qui, d'un coup, révèle que ça se passe comme ça. Il n'y a pas que les professionnels ou des grandes gueules comme moi qui disent « ça ne va pas, on est vraiment au taquet, on n'y arrive plus dans les hôpitaux publics, on est vraiment acculé ». Eh bien, c'est ce que je dis dans Cinémensuel, c'est que d'un coup, il arrive un moment où là, ce n'est vraiment, on est au bout du bout, comme on dit, avec cette expression qui veut rien dire d'ailleurs.
Alors, Cinémensuel, au cas où vous habiteriez trop loin d'un kiosque, vous savez que les kiosques, le papier, c'est l'un des combats de l'instant.
Et je rejoins ce combat.
A écrit un très 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 joli texte qu'on peut trouver en homepage de son site internet. Nous avons décidé d'instiller un peu de modernité en créant une version numérique du journal. Vous pourrez la lire sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Vous ne trouverez pas de version Apple Store. Apple a horreur de l'humour et du cul. Mais que ceux qui rêvent de prix bradés grâce à la modernité ravalent leur sourire, le prix du papier et le prix du web sera le même pour deux raisons. D'abord, ça nous a coûté une blinde de mettre cette fonction en place. Ensuite, les kiosquiers sont nos amis.
Mais oui, faut acheter le journal chez le kiosquier. Faut acheter le journal chez le kiosquier et après aller au café et au troquet pour boire son café au troquet.
Et vous qui écrivez dans Cinémensuel, vous continuez d'aller chez le kiosquier l'acheter ?
Ah bah ouais.
Ah bah ouais.
J'ai été hier soir, puis après, là, tout à l'heure, je suis allé aux Ondes boire un café, comme vous. Voilà.
Merci beaucoup, Patrick Peloux. Merci beaucoup, Cinémensuel. Et donc, en kiosque tout le mois d'avril, et il ne vit que de ses lecteurs, évidemment. Je vous le rappelle, pas de pub. Bonjour, Ali Rebeilly.
Bonjour, Saint-Devillers. Avez-vous la tête de votre prénom ?
Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Sonia, Patrick Peloux ?
Ah,
vous avez vraiment une tête à vous appeler Patrick.
C'est le thème de notre émission. Quelle est l'influence physique d'un prénom sur son détenteur? On se demandera également comment on choisit un prénom et s'il nous correspond toujours vraiment. On évoquera également les discriminations liées au prénom. 01 45 24 7000.